nous avons dit hier pouvait se lier de donner du sens à mon propos. Nous avons commencé hier par rencontrer Sainte Thérèse de Lisieux, qui donc propose une voie pour le chrétien, pas seulement pour les carmélites ou les moniales, hein, une voie pour le chrétien, une voie qu'elle a lui elle-même suivie, et une voie qui rejoint totalement les plus grands spirituels qui, eux, ont systématisé dans leurs écrits cette voie. On dit que c'est la voie de l'enfance spirituelle, non pas une voie infantile, mais une voie très, très mature, qui, on pourrait la résumer en disant que c'est la reconnaissance d'abord de l'amour de Dieu pour nous, en conséquence une confiance totale en son désir de nous faire vivre en lui, et pratiquement ça amène le chrétien à vivre dans un abandon, un à sa miséricorde, puis une participation à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre que Dieu a réalisée dans le Christ. Donc dans la communion au Christ, c'est pas seulement « je suis uni au Christ », mais « je participe » à sa mission aujourd'hui. Si vous voulez, je crois que c'est Élisabeth de la Trinité qui dit dans une prière qu'elle est comme une continuation de l'incarnation. Dans l'après-midi, en prenant un peu, on peut dire, de hauteur, on va essayer donc de revenir sur ce mystère de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est pas un amour en l'air, c'est un amour qui s'incarne dans l'histoire d'un peuple, dans lequel peuple il y a des personnes. Et donc nous avons fait un survol, on peut dire, de la Bible pour y découvrir le fil conducteur qui relie tous les livres de la Bible, l'amour de Dieu que l'on rencontre dans la première page de la Bible, la Genèse, et puis qui tout au long de l'histoire du peuple hébreu s'exprime par des pardons, punitions et puis des relèvements, enfin, si vous voulez, de la création jusqu'à Jésus, et il faudrait continuer, mais enfin pour le Premier Testament, c'est vraiment l'amour de Dieu qui est le fil conducteur de tout ce qui est écrit dans la Bible. Et ultimement, hein, cet amour de Dieu qui nous crée, nous recrée pour nous faire participer à la victoire du Christ, la mort. Donc la création de Dieu, elle est totale lorsque nous sommes totalement unis à la gloire du Christ dans le royaume, qui est déjà commencé, mais pas pleinement accompli. Ce matin, je vous propose alors de nous arrêter sur la réponse de l'homme à l'amour premier et gratuit de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout de dire « Dieu nous aime », ce n'est pas le tout de faire mémoire de ce qu'il a fait pour nous, mais comment nous pouvons-nous répondre à cet amour de Dieu. Je mettrai comme titre, si vous voulez, une citation de Saint Jean, la première épître de Saint Jean au chapitre 4e. « Quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. » Jean voit très large, hein, « quiconque aime hein, », donc qui ne précise pas de quelle intensité d'amour. Hein, « Quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu », voyez, il y a un mouvement, c'est une découverte progressive. On le verra demain, demain et dès ce soir dans l'évangile de demain, la guérison de l'aveugle né, on voit que la découverte de Jésus se fait progressivement. Donc tout amour est réel et s'accomplit quand il y a réciprocité. Et donc l'image privilégiée que tout l'Ancien Testament va utiliser pour parler de l'amour de Dieu pour sa création, c'est l'image nuptiale. Les prophètes vont l'utiliser abondamment pour dire ce qu'est réellement l'alliance entre Dieu et son peuple, entre Dieu et chacun de nous. Je vous prends simplement parmi d'autres, hein, une citation du prophète Osée que vous avez sûrement entendu d'autres fois. Donc Dieu parle à Israël, mais il s'adresse à lui comme si c'était une femme. Hein. « C'est moi qui vais la séduire, je la conduirai au désert, je parlerai à son cœur. Et de là-bas, Alors c'est très imagé, hein. Je lui rendrai ses vignobles et je ferai de la vallée d'Achor une porte d'espérance. Et là, elle répondra, donc c'est Israël, hein, comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle monta du pays d'Égypte. Vous voyez, c'est la référence à la sortie d'Égypte, à l'Exode. Et il adviendra en ce jour-là que tu, alors tu c'est Israël, hein, que tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon Baal, mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals et on ne mentionnera même plus leurs noms. Alors les Baals, c'est les idoles hein, du temps. Je conclurai pour eux, alors vous voyez, il y a une alternance hein, de tu, eux, mais c'est toujours le peuple. Hein. Je conclurai pour eux en ce jour-là une alliance. Alors ça, c'est l'alliance universelle, hein, quand la création sera toute transfigurée, avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les reptiles du sol. Rappelez-vous la prophétie d'Isaïe, l'enfant jouera sur le nid du cobra, l'or qui sera parmi le chevreau. L'arc, l'épée, la guerre, je les briserai, il n'y en aura plus dans le pays, je permettrai aux habitants de dormir en sécurité, et puis cette dernière image, je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi par la justice et le droit, l'amour et la tendresse, je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras le Seigneur. Donc, ou bien ce sont des images purement qui ne contiennent rien, ou bien ce sont des images qui veulent dire une réalité qui bien sûr va au-delà de l'image, mais quand même qui laisse pressentir de quel ordre est l'alliance de l'homme avec Dieu. Donc comment peut-on parler de l'amour de Dieu si soi-même on n'est pas engagé dans cet amour ? Je reviens encore en arrière, pensons à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Joseph, et puis en remontant dans le temps, Moïse, Aaron, Josué, les juges, David, Salomon, les prophètes, même dans leur infidélité, parce que ce sont des hommes, et la Bible ne nous cache pas leurs infidélités, leurs gros écarts, donc même infidèles, tous ces personnages seront des hommes de foi, guidés et soutenus par leur amour de Dieu. Nous encore lors de la conclusion de l'alliance au Sinaï, quand Moïse avait dit en gros, hein, alors êtes-vous d'accord avec ce que Dieu vous propose ? Réponse du peuple, dans le livre de l'Exode au chapitre 24e, toutes les paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Même si après, il y a des moments où on ne les met pas en pratique, ou même on s'oppose à ces paroles, on y revient toujours. C'est le sens de la conversion. Particularité ici, c'est qu'on ne voit pas, on ne voit pas Dieu. Enfin, peut-être vous l'avez vu, mais on ne voit pas. Et que l'alliance avec lui demande qu'on s'engage sur une connaissance de foi, pas sur des preuves, pas dans la nécessité. Vous avez beau dire, moi j'ai dans ma vie des signes qui me font croire que Dieu est avec moi et que je peux lui faire confiance, pour vous ce sont des signes, mais pour votre voisin ça ne veut peut-être rien dire. Puis faisons attention aux signes, quand on dit, je prends un exemple énorme, hein, pendant la guerre, notre maison, enfin tout notre quartier a été bombardé et notre maison a échappé. Donc un signe de l'amour de Dieu pour nous. Mais alors, et le voisin ? Il faut faire attention. Mais, vous avez plus l'expérience que moi, est-ce que tout engagement dans l'amour n'est pas un acte de foi ? Ah, je fais appel à votre expérience. Quand un homme et une femme se lient pour la vie, ah, qu'est-ce qu'ils savent l'un de l'autre ? En plus, rien ne les oblige à se choisir et à s'engager. Aucune évidence ne vient leur prouver qu'ils doivent absolument s'unir, qu'ils ont raison de le faire. C'est-à-dire que l'amour, quel qu'il soit, enfin, s'il est sérieux, est un acte de foi. Et je vous rappelle la phrase de Thérèse ici, la marque, « Je veux t'aimer, je veux croire ». Est peut-être plus important que je t'aime ou que je crois. Donc il y a vraiment une décision, et cette décision, elle relève de notre liberté. aucune obligation ne vous viendra de l'extérieur. Même si vous dites, oh Dieu nous avait fait l'un pour l'autre, il nous a fait nous rencontrer. Oui, peut-être, mais il y a vraiment un cheveu. Hein. Vous pensez que quand vous choisissez un partenaire, vous en laissez des milliards à côté? Et ça ne veut pas dire que les milliards sont nuls. Hein. Donc dans tout amour, il y a cette part de mystère et cet acte de foi. Je veux croire, je veux aimer. Cette démarche intimement libre et personnelle, elle commence, alors je reviens un peu à ce que l'on disait hier, elle commence par notre attention à l'action de Dieu. Dans la règle de Benoît, que peut-être vous connaissez, il y a, je crois que c'est dans les instruments des bonnes œuvres, où Benoît invite le moine à fuir l'oubli. Simplement, ça veut dire à faire mémoire, et à ne jamais perdre de vue que toute sa vie, la vie du moine, mais notre vie, se déroule ou s'accomplit sous le regard de Dieu. On n'échappe jamais à Dieu. Vous vous rappelez de Caïn qui se sauve pour essayer d'échapper au regard de Dieu? Victor Hugo.
Le lieu dans la tombe et regardait Caïn.
Bravo. Donc on n'y échappe pas. Hein. On est toujours sous le regard de Dieu. Donc, si vous voulez, la première réponse à l'amour premier de Dieu pour nous, c'est d'être conscient que c'est un amour réel qui fait que Dieu nous est présent et que si nous voulons y répondre, la première chose, c'est d'être nous-mêmes présents à cet amour, de fuir l'oubli. Parce que Jésus nous le dit, hein, Dieu œuvre toujours. Donc l'œuvre de Dieu, l'œuvre de création et de recréation, elle accomplit toujours. Dieu est sans cesse à l'œuvre. On a un bel exemple de cette culture de la mémoire dans le peuple d'Israël. J'ai toujours été très frappé, mais peut-être vous aussi, que Israël dispersé dans tous les coins du monde depuis 2 millénaires, pour garder cette mémoire, alors que nous, surtout aujourd'hui, au bout de 2 générations, vos petits-enfants savent même plus d'où vous êtes. On leur demandait de quelle région étaient tes grands-parents. La mémoire, avec l'accélération du temps, on la perd très très vite et puis on ne la cultive pas. Et j'ai toujours été frappé, donc Israël dispersé pendant 2 millénaires garde toujours. Alors je crois que c'est ils ont une culture de la mémoire très forte. Que même s'ils se sont éloignés de la pratique de leur foi, reste quand même toujours quelque chose. Alors, en Israël, hein, la mémoire des mémoires, c'est la mémoire de Pâques, hein, enfin de sortie d'Égypte. C'est l'événement fondateur. Et notez que pour nous, c'est la même chose. Nous la célébrons au minimum tous les dimanches, un peu comme nous, tous les jours finalement, c'est toujours Pâques. Un passage du Deutéronome, quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur vous donnera, comme il l'a dit, vous observerez ce rite, alors c'est le rite pascal, hein. Quand vos fils vous diront, qu'est-ce que ce rite que vous faites, vous direz, c'est le sacrifice de la Pâque pour le Seigneur, lui qui passa devant les maisons des fils d'Israël en Égypte, et délivra nos maisons. Et là, on est encore dans la transmission. J'ai vécu une fois ou deux un rituel pascal. Dans le rituel, il y a la question que posent les enfants. Ce sont peut-être des questions toutes préparées. Les réponses sont peut-être toutes préparées. Mais n'empêche que les enfants posent au père de famille, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Ajoute de l'air, pourquoi? Et ça fait partie du rituel, on transmet la mémoire. C'est plus que le souvenir, hein, c'est la mémoire. C'est-à-dire la mémoire, oui, et dans le christianisme c'est aussi vrai, la mémoire nous rend comme contemporains de ce que nous célébrons. Quand vous faites un cérémonie au monument aux morts, et quelquefois vous vous souvenez de l'avant-dernière ou de l'avant-dernière guerre et vous vous dites qu'il faudrait plus recommencer. C'est un bon souvenir. Le mémorial de la Pâque dans l'Eucharistie, c'est plus qu'un souvenir, c'est la célébration d'un événement qui englobe tout le temps et qui, d'une certaine manière, s'accomplit aujourd'hui pour nous et s'accomplira encore demain. Ça, si vous voulez, c'est là. On rend présent l'événement dont on célèbre la mémoire. Son efficacité, si vous voulez, ne s'arrête pas au moment même, il y a 4000 ou 5000 ans, ou 2000 ans pour la scène, son efficacité est toujours efficace. Faites ceci en mémoire de moi. Cependant, j'avance un peu, pourquoi ou à quoi bon faire mémoire des œuvres de Dieu si on ne le reconnaît pas à l'œuvre pour nous aujourd'hui? Jésus dit aux Juifs, après la guérison du paralytique, dans Saint Jean chapitre 5e, « Mon Père est sans cesse à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Mais c'est la même œuvre. Et étendons cette remarque, quel sens aurait le ministère presbytéral, si vous avez des fils prêtres, quel sens aurait le ministère presbytéral s'il n'était greffé immédiatement sur l'œuvre de salut que Dieu accomplit constamment? C'est-à-dire, s'il n'était pas le prolongement, l'actualisation de la mission du Christ. Cette question, finalement, elle se pose à tout chrétien. Si la vie baptismale et la participation au témoignage rendu par le Christ à son Père, cela veut dire que la vie chrétienne, toute vie chrétienne, qu'elle soit la vie d'un prêtre ou celle d'un laïc, est, dans le Christ ressuscité, une offrande vivante à la louange et à la gloire de Dieu. Ainsi que notre amour, quand nous déclarons, quand nous confessons notre amour pour Dieu, il ne doit pas en rester au niveau des beaux sentiments, mais il doit chercher à prendre corps et devenir un engagement de tout notre être au service du Christ. Bien souvent, et on l'a vu chez Thérèse, on réduit l'amour aux émotions que l'on ressent. Contact, par exemple, d'un être cher ou devant une situation émouvante. Mais vous savez comme moi, les émotions, elles passent comme les nuages. Décision d'aimer et le don effectif de soi, eux demeurent. Et ce sont eux qui vont édifier l'amour. À tout âge donc, et en toutes circonstances, dans toutes les situations, on peut s'offrir à Dieu en communion avec le Christ. Thérèse disant, Je ramasse une épingle par amour de Dieu, ça a un prix infini. Si vous aviez laissé l'épingle par terre, la face du monde n'aurait pas été changée. L'opérateur qui passait derrière l'aurait avalé, enfin je ne sais quoi. Mais dans ce petit acte fait par amour, je ramasse une épingle, pas l'effet papillon. Vous connaissez l'effet papillon?
Oui.
Pas?
Pas moi.
Ben, c'est-à-dire... tomber ce livre, ça provoque un mouvement, ça déplace un petit puceron à l'extérieur, lequel petit puceron va provoquer autre chose et vous allez avoir une répercussion. Alors, la grâce de Dieu, c'est pas l'effet papillon. L'image, c'est pas l'effet papillon. C'est que vraiment, dans le mystère de la communion des saints, c'est communion au Christ, de tous les membres de son corps, toute petite action faite par amour a l'efficacité de l'œuvre même de Dieu. Que dans le témoignage chrétien, qu'il soit le témoignage du prêtre ou le témoignage du laïc, bien qu'il ne s'agit pas de faire de la publicité. Un pays où la mission est interdite, de prosélytisme. Il ne s'agit pas de publicité, de prosélytisme. Le témoignage chrétien, c'est vraiment une telle union du chrétien au Christ que toute sa vie devient, dans le Christ bien sûr, devient l'œuvre de Dieu. À la limite, mais je dis bien à la limite. Il n'y aurait pas besoin de dire ce que l'on croit. Le seul fait de nous voir devrait déjà être un témoignage et devrait déjà être missionnaire. Jésus le dit quand il dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». C'est-à-dire que où que vous soyez, votre vie doit donner du sens, alors à ce que vous faites bien sûr, mais doit révéler aussi aux autres le sens que leur vie peut prendre dans le Christ. C'est la même chose. Et, enfin, j'ose pas le dire, non. Le sel, c'est vraiment rien du tout. Pourtant, c'est important. Puis, si nous essayons d'exprimer ça de façon encore plus concrète, l'incarnation de l'amour de Dieu, qui, de façon parfaite, s'est réalisée dans le Christ, va, si vous voulez, à l'échelle de notre histoire personnelle et de notre histoire communautaire, l'incarnation de l'amour de Dieu dans le Christ va s'achever pleinement, même si elle aura besoin encore bien des siècles derrière nous, va s'achever pleinement dans la charité. Faire la charité, si vous voulez, c'est pas seulement être attentif aux autres, être gentil, serviable, et faire que la société soit vivre, la charité a une dimension profondément sacramentelle. Pour que le monde croit, pas seulement pour que le monde échappe à la guerre, à l'injustice, mais pour que le monde s'ouvre à la réalité de l'amour de Dieu et se laisse habiter par l'amour de Dieu. Quelqu'un dit, c'est Saint Jean, ça nous poursuit partout.
Je crois que c'est l'appareil qui fait ça.
Non, non, c'est moi. C'est moi. Non, non, c'est moi.
Ah, c'est vous.
Pardon. C'est quand... c'est comme dans les hôpitaux, on appelle ça un bip, non ? Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Et celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Voici le commandement que nous tenons de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Et auparavant, dans la même épître, Jean avait écrit « Aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour. Voici comment s'est manifesté l'amour de Dieu au milieu de nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Voici ce qu'est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. » et qui a envoyé son Fils en victime d'expiation pour nos péchés. Voyez, on retrouve l'expression de Thérèse en victime d'Holocauste. Et bien aimé, si Dieu nous a aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, nul ne l'a jamais contemplé. On ne le voit pas. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour en nous est accompli. Alors, voyez bien que dans le Christ, aimer les autres, c'est pas parce qu'il nous l'a demandé, enfin si, bien sûr, c'est pas seulement Jésus nous a demandé de nous aimer les uns les autres, alors nous nous aimons. C'est insuffisant. Il nous a dit, ce que vous faites au plus petit, c'est à moi. Il s'est donc identifié à l'autre. Si, chrétien, croyant que le Christ est venu nous sauver, je veux le suivre, je suis appelé donc à faire de la charité un acte de foi. C'est parce que l'autre est membre du Christ, qu'il est mon frère, que je vois en vie, en lui, pardon, un membre du Christ, c'est pour ça que je l'aime. C'est pas seulement parce que ça m'a été demandé. C'est plus fort, hein. Puis, finalement, je le redis autrement, ça veut dire que la charité n'est pas un état, un élan généreux de solidarité, ni un mouvement de compassion. Bon, il y a tout ça, hein. Mais un acte de foi qui nous fait voir toute situation, tout événement, et tout autre surtout, quel qu'il soit, avec les yeux du Christ et dans le cœur de Dieu. Ça, si vous voulez, c'est pas immédiat. Il faudra toujours nous reprendre, parce que nous avons un regard très humain, un premier regard qui est très humain, qui véhicule des guerres de politique, de psychologie, qui sont pas fausses, ces poussières, elles existent, mais nous, chrétiens, nous sommes toujours appelés à les dire. Je prends un cas concret, politique par exemple, si chrétien, moi je dis, tel qui n'est pas de mon bord et qui dit des choses horribles, peut dire, je sors avec ce qu'il pense et dit, dit même c'est fort nocif, donc je peux m'engager à mon niveau d'origine le tire, mais je ne peux pas le vouer à l'enfer. Alors, ce que Paul nous dit dans la première aux Corinthiens, quand je parlerai en langue, celle des hommes, celle des anges, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas d'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne disparaîtra jamais. Rappelons-nous que ça, c'est un chemin. Hein. Ça veut dire qu'on n'est jamais arrivé, hein, jamais totalement en adéquation avec cette âme, mais au moins, on sait vers quoi l'appeler. La conversion, c'est d'essayer toujours de dépasser nos humeurs premières qui ont besoin d'être évangélisées. Donc, vous écouterez l'évangile tout à l'heure, c'est le pharisien et le publicain. À la fois, c'est, on ne va pas dire que c'est mal de donner sa vie, de donner son argent, mais pourquoi le fait-on? Et dans saint Paul aussi, dans l'épître aux Romains, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment, avec son Fils, ne nous donnerait-il pas tout? Qui accusera les élus de Dieu? Que justifie? Qui condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité, lui qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? La détresse, l'angoisse, la pression, la faim, le dénuement, le danger, le glaive? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, nous sommes mis à mort tout le long du jour, nous avons été considérés comme des bêtes de boucherie. Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces, les hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Quand vous dites cela, qu'il y a des gens qui ont la foi, mais peut-être encore un peu pas assez, disons, mûrs, regardent en disant, mais vous êtes des naïfs, ça tient pas. C'est bien beau, mais il y a un peu plus réaliste. Si vous viviez dans le monde comme nous, vous verriez bien. Or, pensons que Jésus est mort de cette naïveté. Lui qui a dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Et ça lui a valu rire sur la croix. C'est-à-dire que Jésus, il a pris, oui, on peut dire, le contre-pied de l'ordre social de son temps et même de l'ordre religieux de son temps, son ordre social et religieux de tous les temps. Hein. Dans la perspective évangélique, il n'est plus question d'obtenir des résultats, de faire chiffres, même de définir une méthode d'évangélisation, même d'apprendre à manager une communauté. Nous avons ici régulièrement tous les ans des sessions de management pour prêtres. Non, je ris, mais c'est pas inutile. Hein. Non, parce que j'ai demandé à plusieurs, et vraiment ils sont de toutes les couleurs. Hein. Vous savez, ceux qui sont en soutane, d'autres qui sont rien. Et tous disent le bénéfice de ces sessions, parce qu'elles sont faites dans un esprit évangélique, mais l'évangile ne nous défend pas d'être intelligents. Et donc, de prendre des moyens pour que le message passe, et puis pour que, un, c'est important aujourd'hui, que les prêtres ne s'épuisent pas d'azimuts, et puis se retrouvent après 10 ans, comme on dit plus une dépression maintenant. Donc, le management est important, mais si vous voulez, vous avez dû entendre le pape François disant il n'y a pas longtemps, attention, l'Église n'est pas une ONG. Et qu'on a beau avoir un plan de travail, un projet pastoral, c'est très bien, il le faut, mais ça ne se réduit pas à ça. Là, Jésus, il est nul. Il meurt sur une croix, lui qui était venu pour sauver les hommes. Il laisse derrière lui une Église, 12 pauvres hommes, peu de temps avant, c'est le monde à l'envers. Dans une logique d'entreprise aujourd'hui, c'est vraiment l'envers. Hein. C'est voué à l'échec, dans une logique d'entreprise. Hein. Or, en mourant sur la croix, en ressuscitant, hein, et en lançant là, comme ça dans le monde 12 hommes qui n'étaient jamais sortis de leur... C'est ça qu'est née l'Église. Et des historiens, alors je ne veux pas prendre parti, qui vont vous dire que le déclin de l'Église... Tenez-vous bien, vous ne devineriez pas. Vous avez précisé, infini. Le déclin de l'Église commence sous Constantin. Vous voyez quand? Quand c'est 350. Constantin c'est 350. Alors pourquoi il dit ça? C'est un peu provocateur. Hein, Pourquoi elle dit cela? Parce que, à partir de Constantin, l'Église qui jusque-là était persécutée, cachée, enfin, qui devait se battre, c'était l'époque des martyrs, etc. À partir de Constantin, l'Église devient une force parmi d'autres, établie, et de ce fait, elle perd en témoignage de sa cœur, de sa vérité. Elle confond un peu à certaines époques avec les politiques, enfin, et de là, évidemment, il y a une identité qui risque de se perdre. Alors, c'est très excessif, cette réflexion, mais elle nous alerte. Quand on imagine que l'Église, le type de l'Église, c'est une Église puissante, des années tout, faisons attention. Hein. Là, nous sommes plutôt dans une... Enfin, historiquement, nous sommes plutôt dans une phase, je ne veux pas dire des premiers siècles, mais par certains côtés, on se rapproche des premiers siècles. Alors, on peut dire, quel dommage d'avoir perdu toute l'opulence de l'Église. Oui, mais en même temps, ça peut être aussi une chance de retrouver la sève, le cœur de notre foi, de vivre les premiers siècles. Comment vivaient-ils? Cachés souvent, persécutés et ignorants. Alors, comment dirais-je, tous les siècles ont eu des vrais témoins, hein, et aujourd'hui encore, trop vite. Mais ça nous appelle peut-être à avoir un regard confiant dans notre actualité, puis à être présent à notre actualité de façon... oui, à notre mesure, parce que comment Dieu regarde-t-il notre monde contemporain? Juge, laisser partir, comme ça qu'il regarde le monde. Donc nous sommes toujours appelés, nous chrétiens, à essayer, hein, parce que nous ne sommes pas Dieu, à essayer de poser sur la réalité qui est la nôtre, et à poser sur nous-mêmes, hein, le regard même de Dieu. Comment Jésus, aujourd'hui, s'il venait là, parce que l'époque de Jésus n'était pas une époque brillante, hein. Pas brillant, il y avait des signes de décadence aussi. Osé, il a dit vraiment ce qu'il pensait. Mais, comme venu dans ce temps, dans ce pays, avec toutes les limites et les défauts de son peuple. Les Gaulois. Mais, pas parce qu'ils étaient meilleurs, hein. C'est le mystère de l'élection. Donc il n'y a pas de, y a aucune raison. Vous avez un peu de temps. Essayez de voir dans votre histoire des signes du passage de la grâce. Puis d'en faire mémoire et de les ouvrir sur l'avenir, votre avenir. Vous n'avez pas de contestation.